Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Je vous propose aujourd'hui une tranche de vie particulière, une parenthèse qui n'a rien d'un enchantement. Ce serait plutôt une épreuve citoyenne, une sorte de je l'ai fait, mais très sobre. Sophie Kepes est écrivain, scénariste, enseignante à l'université et elle se retrouve un jour tirée au sort pour être jurée d'assises. Car en France, la cour d'assises qui juge donc les crimes et non les délits inclut des hommes et des femmes ordinaires. Et de cette aventure morale qui marque forcément à vie tous ceux qui un jour ont été désignés par tirage au sort pour être jurés populaires, eh bien Sophie Kepes en a fait un livre, Probe et Libre, un écrivain juré d'assises. Son récit, c'est celui finalement de quelqu'un qui n'est ni un professionnel de la justice, ni une victime, autant dire une autre lumière sur la vérité, sur le mensonge, sur la sanction des crimes et peut-être aussi sur les abîmes de l'humanité. Bonjour Sophie Kepes.
Bonjour.
Pourquoi avoir intitulé votre récit Probe et Libre? Parce que la probité, qui veut dire l'honnêteté, hein, c'est plus un mot qu'on emploie beaucoup, honnêtement.
Alors, c'est un extrait du serment des jurés qui a été rédigé par les constituants en 1791, donc c'est quelque chose qui date de la Révolution française, et c'est vrai que c'est un vocabulaire qui est un peu vieilli et qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, par exemple, et un vocabulaire du XVIIIe siècle, un vocabulaire des droits de l'homme. Et probe, en effet, c'est plus très utilisé en français.
Et c'est impressionnant, ce fameux jour où on vous lit ce texte, hein, vous jurez, promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, donc l'accusé, suivant votre intime conviction, avec l'impartialité, la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.
Voilà, sachant que il s'agit d'homme au sens être humain. Et probe et libre, eh bien, c'est pas si facile de l'être dans ces circonstances très particulières.
Et vous jurez aussi de conserver le secret des délibérations, là je reprends aussi le texte, hein, même après la cessation de vos fonctions.
Oui, voilà pourquoi, même la tête sur le billot, vous n'arriverez pas à me faire parler du secret des délibérations.
C'est ça.
Il s'agit de ce moment où on essaye de se mettre d'accord sur un verdict, hein, c'est ça. Mais tout le reste peut tout à fait être publié, à condition naturellement de respecter l'anonymat, de changer les noms des personnes impliquées. Surtout que les affaires que j'étais amenée à examiner étaient des affaires à huis clos, jugées à huis clos. Donc aucune publicité ne pouvait être faite.
Parce que c'était des affaires qui touchaient des mineurs. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est quasiment automatique. Un mineur de 15 ans, comme on dit.
Oui, donc c'est la minorité sexuelle.
C'est ça, voilà. C'est pas un mineur de 18 ans, c'est pas une question de droit de vote, c'est vraiment la minorité sexuelle, en effet.
Donc vous ne pouvez pas raconter les délibérations, mais vous avez raconté tout ce cheminement intérieur, tout ce qui s'est passé dans votre tête pendant ces 2 semaines, hein, puisque vous avez été tiré au sort, vous êtes resté 2 semaines pour juger 3 affaires.
Oui.
Juré d'assises, c'est la cour de justice qui juge les crimes, donc, et pas les délits. Mmh. Alors peut-être pour expliquer aux profanes, c'est vraiment grave.
Oui, en tout cas, si on se réfère aux peines encourues, parce que finalement c'est plus ou moins ça la différence, on juge en correctionnel les délits et on juge aux assises les crimes, et les crimes sont passibles de plus de 5 ans d'emprisonnement. C'est tout simplement ça la différence. Alors pour aller vite, il s'agit évidemment des homicides, il s'agit de violences graves, de tortures, de crimes de terrorisme aussi, et puis il s'agit de crimes sexuels, et c'est pour cela que j'ai été convoquée.
Comment ça vous est tombé dessus? Vous avez d'abord reçu une convocation au palais de justice?
Oui, en fait, on reçoit une première convocation longtemps en amont. Je ne sais pas si c'était 6 mois ou 1 an à l'avance, mais enfin, c'était très longtemps à l'avance. Et tout simplement, la condition sine qua non, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Sinon, vous ne serez jamais convoqué. Donc, c'est au niveau départemental, si vous voulez. Vous recevez une première annonce, alerte, si vous voulez, longtemps à l'avance. Et j'avais largement eu le temps de l'oublier. À partir de là, il y a un deuxième tirage au sort, puis un troisième qui se fait. Et quand la convocation vient cette fois vraiment vous atteindre chez vous, eh bien, on est à quelques semaines du début des audiences. Ouais. Et on est quand même étonné. J'étais quand même étonnée, même si j'avais reçu cette première annonce.
Votre entourage vous a dit, mais tu vas pas y aller.
Oui, peut-être c'est moi qui suis un petit peu bizarre, mais je me suis sentie très honorée, en fait, d'être tirée au sort pour participer à la vie de la cité, pour donner un avis sur des affaires impliquant d'autres citoyens français. Mmh. Alors, tout le monde ne pense pas comme moi,
oui,
apparemment.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est un moment quand même difficile à traverser. Alors, quand on dit tirage au sort, on va pas entrer dans tous les détails, mais en fait, il faut être tiré au sort plusieurs fois. Ce qui veut dire que quand vous êtes désigné juré titulaire, vous avez en fait, vous, été tiré au sort trois fois. Voire plus même,
voire
en amont.
Plus, oui. En fait, trois fois avant cette fameuse convocation définitive avec des dates. Donc, c'est sur le principe du tirage au sort qui est affiné, si vous voulez. Et puis ensuite, on a la révision des listes, c'est-à-dire que on a une première convocation où on vérifie que vous êtes bien décidé à siéger, vous ne désirez pas être dispensé, etc. Donc là, il y a déjà pas mal de gens qui s'éliminent eux-mêmes puisqu'ils cherchent la dispense. C'était d'ailleurs une chose sur laquelle on pourra revenir parce que j'étais assez étonnée finalement. Plus d'un tiers des personnes convoquées essayaient d'échapper à cette expérience et à cette responsabilité. C'est un devoir. Bon, et puis ensuite, vous allez une fois que le jury de session est nommé, qui doit comprendre au minimum, je crois, 23 personnes populaires, bien sûr. Eh bien, vous allez être de nouveau tiré au sort ou pas pour chaque affaire. Et pour chaque affaire, vous pouvez être récusé, soit par le procureur, qu'on appelle l'avocat général aussi, soit par l'avocat de la défense.
Et les femmes sont souvent récusées pour juger des affaires d'hommes.
Eh bien oui, c'est ce que j'ai constaté, c'est presque systématique d'ailleurs, étant donné que c'est vrai que pour les crimes sexuels, il se trouve que la plupart des prévenus sont des hommes, assez systématiquement l'avocat de la défense récuse les femmes. Donc nous étions généralement moins nombreuses dans les trois affaires où j'ai participé. Et puis il faut quand même ajouter qu'il y a trois professionnels, trois magistrats qui de toute façon sont impliqués à chaque affaire. Il s'agit du président de la cour, en l'occurrence c'est une femme, la présidente, et bien sûr il y a donc le procureur, c'était aussi une femme, l'avocate générale, et on a deux juges assesseurs qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Donc en gros vous avez 9 jurés citoyens, 3 professionnels.
Ça a changé, depuis, il y en a plus que 6 aujourd'hui.
Absolument, ça a changé justement depuis qu'il y a la possibilité de faire appel, ce qui est assez récent, hein, ça date des années 2000. Maintenant, on est 6 jurés populaires seulement en première instance et on appelle, on est de nouveau 9.
Ça s'est passé dans quelles années, ça ?
Alors, ça s'est passé dans la deuxième moitié des années 2000. Pas grand chose a changé dans le fonctionnement de la justice qui est assez lente à évoluer. Donc, tout ce que je dis reste valable.
Évidemment, ce que vous racontez, c'est en fait, c'est ce poids énorme de la responsabilité.
Oui, c'est quelque chose à quoi rien ne prépare, il me semble.
D'envoyer ou pas quelqu'un en prison.
Oui, voilà.
Pour plusieurs années.
Je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on soit aussi ignorant de ces choses-là. Moi, j'étais extrêmement ignorante. Si j'étais intéressée d'y participer, c'est un peu ma nature, si vous voulez, d'écrivain engagé. C'est un petit peu aussi parce que je m'intéresse aux choses humaines, à la psychologie, à la sociologie. Mais on peut pas être préparé à cette responsabilité et à cette épreuve. C'est une épreuve qui est physique, morale, psychologique, dont certains jurés ne se remettent jamais. Ils sont littéralement traumatisés. Voilà, ça peut durer jusqu'à un mois quand même.
Et c'est cette aventure morale que vous avez racontée dans votre livre. Vous avez compris d'ailleurs assez vite que vous n'étiez pas du tout dans un film ou dans une série policière.
Si un tout petit filet d'eau sent, si un tout petit filet d'eau sent, que sa voix aide à atteindre l'eau, c'est un... Si ce tout
Joy Shanti, d'origine haïtienne chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en compagnie de Sophie Kepes, qui raconte dans son livre Probe et Libre son expérience de jurée d'assises. Sophie Kepes, vous avez été donc désignée, tirée au sort plusieurs fois, donc c'était une évidence, et d'ailleurs vous n'avez jamais songé à vous soustraire au poids de cette responsabilité d'être jurée d'assises. Évidemment, vous ne connaissiez rien au fonctionnement de la justice, parce que vous êtes scénariste, écrivain, pas du tout suivi de formation en droit.
Non, pas du tout. J'ai écrit deux polars sous pseudo. Enfin, bon, c'est apparemment pas ça qui suffit pour être au fait de ces choses-là.
Et les autres jurés aussi, comme vous ?
Voilà, comme moi. Bon, ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que vous allez vous retrouver dans une espèce de mini-corps social qui est constitué de gens de tous horizons. Mmh.
Par exemple, avec qui ? Avec vous, il y avait qui ?
Alors, quelqu'un dont j'étais assez proche parce qu'il était tiré au sort systématiquement avec moi, c'était un jeune juré étudiant en économie. Mais bon, il y avait un monsieur retraité handicapé, dont je me souviens très très bien. Il y avait une dame très très agaçante qui commentait tout le temps et qui m'était pas très sympathique. Voilà. Et finalement, on se retrouve à discuter d'affaires qui sont très éloignées de nous, très proches par le côté humain, mais très éloignées de nous, alors qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'on se serait probablement pas fréquenté ailleurs, c'est ça. Et on va arriver quand même à se rapprocher les uns des autres. D'abord, on parle beaucoup des affaires. Ça, c'est une chose qui est tout à fait autorisée. Donc, on va beaucoup parler entre nous, entre jurés, dans les couloirs, dans les pauses, ce qui va nous permettre d'évacuer la tension, parce que elle est énorme. Et puis,
vous prenez des notes, bien sûr, pendant les audiences. Vous avez le droit de prendre des notes. Vous avez suivi une formation accélérée.
Oui. Alors, c'est quelque chose qui a été mis en place par Robert Badinter en 81. J'ai du mal à imaginer comment c'était avant, parce que ça me semble tellement indispensable. Donc, ça dure qu'une demi-journée, mais enfin, c'est extrêmement utile. On n'a pas le temps de tout assimiler, mais après, dans le cours des affaires, ça revient, on s'en souvient, on peut reposer des questions aux magistrats professionnels. Et voilà, donc une formation, ce sont des explications qui sont fournies par la présidente de la Cour, qui est une femme extraordinaire, très très pédagogue, qui s'est beaucoup investie, j'ai trouvé, dans sa mission. La procureure aussi, ensuite, explique deux ou trois choses. Et on a aussi un film, une vidéo récapitulative, et on peut vraiment poser toutes les questions qu'on veut. Et on nous fournit une sorte de petit guide. Voilà, alors on part pas tout à fait sans rien, mais enfin, c'est quand même assez léger.
Vous citez Robert Badinter, évidemment c'est intéressant, parce qu'il c'est le ministre de la Justice qui a été à l'origine de l'abolition de la peine de mort, et ça change tout aussi de la responsabilité des jurés d'assises.
Non, mais ça, il y a vraiment un avant et un après. Donc comme certains de mes amis me disaient, mais enfin, tu vas pas envoyer des gens en prison. Bon, finalement, en y réfléchissant, je les comprends, mais après l'abolition de la peine de mort, c'est pas du tout pareil. Enfin, l'enjeu est pas le même. Je pense qu'en effet, j'aurais cherché peut-être à échapper à cette responsabilité avant 81.
Comment sont perçus dans les jurés populaires dont vous avez fait partie, par les magistrats professionnels, par les avocats, par la présidente de la Cour, par tout ce monde archi-rodé aux affaires, aux pires affaires ?
Faudrait leur demander, mais bon, le sentiment que j'ai eu dans mon expérience, ne généralisons pas, c'est quand même qu'il y avait une véritable attention, une véritable bienveillance, un véritable engagement de la part des magistrats professionnels à notre égard. C'est vrai que de temps en temps, je râle parce que je trouve qu'on ne nous donne pas assez la parole et qu'il faut réclamer.
Voilà. Pour questionner à l'audience.
Oui. Mais c'était surtout dans la dernière affaire, et on comprend pourquoi, parce que on avait quelques jours pour une affaire extrêmement lourde et complexe. Et il faut quand même préciser peut-être que la seule personne à connaître le dossier quand commence la session, c'est le président, la présidente. Même les juges assesseurs en ignorent tout. Ce qui fait qu'elle savait qu'on pouvait peut-être pas trop s'attarder à analyser
donc
les choses.
Ce qu'on découvre aussi avec votre récit, c'est que ce dossier, vous n'y avez pas accès, et que donc tout est sur l'oralité des débats.
Oui, ouais, ça c'est un principe extrêmement important qui n'a absolument pas évolué depuis donc 1791, l'oralité des débats. Et en y repensant, je trouve ça très très bien.
Bon, y compris les experts, quand ils viennent faire leur rapport, ils doivent les faire de mémoire.
Oui, les expertises
psychiatriques, etc.
Tout à fait. Alors bien sûr, ils ont relu leurs notes avant, mais quand ils arrivent, ils doivent parler sans notes. Et c'est aussi ce qui donne cette impression très forte de théâtralité. D'abord, le sujet lui-même, enfin, il s'agit quand même de crimes, de choses absolument terribles. D'autre part, il y a cette espèce de lieu fantastique qui est le palais de justice de Paris, qui était le palais des rois de France, hein, il faut s'en souvenir quand même. On est dans cette oralité, c'est petit à petit, chaque jour, chaque heure, que nous découvrons le dossier, la personnalité de chacun. Et je crois que c'est très bien. C'est comme un puzzle qui se construit petit à petit, mais qui n'est jamais achevé. Et pour être honnête, il n'est jamais achevé même au moment où on délibère sur un verdict.
Oui, parce que ça, c'est tout le problème de la recherche de la vérité, de l'entière vérité. Alors, vous avez eu à juger Sophie Kepes en quelques jours, en deux semaines très exactement, trois affaires aux assises. Trois affaires de viol et d'abus sexuels sur des enfants, hein, donc des mineurs sexuels. Et là, vous découvrez que les crimes sexuels constituent en fait aujourd'hui la majorité des affaires qui sont jugées aux assises.
Oui, alors, vous voyez mon ignorance. Déjà, je ne savais pas que les crimes sexuels étaient jugés aux assises, je l'avoue.
Une partie d'entre eux les plus graves.
Une partie, alors les plus graves, il y en a beaucoup qui sont requalifiés en délit, même s'ils pourraient être jugés en tant que crime, parce que tout simplement, il y a un embouteillage dans les tribunaux. Et c'est quelque chose de extrêmement déstabilisant et de très difficile à envisager, si vous voulez. On a beau savoir, hélas, pour écrire ce livre, je me suis documentée, on a beau savoir très bien que c'est quelque chose de relativement fréquent dans la société française d'aujourd'hui. Par exemple, je suis pas très fan de chiffres, mais seulement 9%, semble-t-il, de ces crimes sexuels et abus sur mineurs et parfois incestueux sont dénoncés et arrivent devant les tribunaux. Et moins quand il s'agit de membres de la famille. Donc, vous voyez, c'est que la face émergée de l'iceberg. Et en plus, donc finalement, c'est environ, je crois, 60% des affaires traitées.
Mais dans le fond, l'écrivain que vous êtes, Sophie Kepes, s'attendait peut-être davantage à des affaires, il faut prendre le mot avec des pincettes, mais des affaires plus romanesques ou plus cinématographiques.
Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. En fait, je m'attendais à des meurtres, à des homicides, tout simplement.
C'est vrai. Voire à des crimes passionnels.
Voilà. Et il y en a, mais je n'ai pas été confrontée à ce type de crime.
Et pourtant, d'emblée, vous saviez que vous vouliez écrire un livre.
Oui, alors, enfin, je suis pas Dostoïevski et j'écrirai pas Crime et Châtiment, mais enfin, il me semble que c'est quand même un sujet qui s'impose à vous. Les écrivains, souvent, on leur pose la question, mais où trouvez-vous vos idées ? Les étudiants me posent cette question. Comment vous viennent vos idées ? Des idées viennent à moi. Et il y a des sujets dont on sait immédiatement qu'ils vont s'imposer dans un type d'écrit. On ne sait pas toujours lequel. Hein. Au début, je voulais faire juste un article pour une revue, et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait impossible.
Alors, les trois affaires que vous avez jugées en tant que juré d'assises sont des affaires qui n'ont pas vraiment fait la une des journaux. Hein. C'est pas du tout des grandes affaires. Ce sont des affaires, on va dire, tristement misérables, mais qui n'en restent pas moins passionnantes sur le plan humain. Vous restez avec nous, Sophie Kepes. On va faire une coupure pour le flash sur l'antenne de RFI, et puis on se retrouve juste après. 7 milliards de voisins. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant. Juré d'assises, c'est votre récit, Sophie Kepes.
Ça va,
le monde.
Ça va, le monde. Pascal Paradou.
Tout l'été, 6 auteurs de théâtre contemporain à découvrir sur RFI pour faire entendre d'autres histoires du monde. Des textes venus du Togo, de Guinée, des Comores, de Tunisie ou du Liban, tous ont été lus au Festival d'Avignon, à l'ombre du Palais des Papes. Vous pouvez maintenant les entendre.
Ça va, le monde.
Dimanche, à partir de 20h10 TU.
RFI.
h 30 à Paris, 10h30 en temps universel, vous écoutez RFI.
Romain Ozoui.
Toute l'actualité en 3 minutes, c'est un convoi controversé qui fait actuellement route vers l'est de l'Ukraine. Près de 300 camions russes destinés à mener une mission humanitaire dans cette région en proie à l'instabilité. La communauté internationale met en garde Moscou contre tout risque d'invasion. L'Ukraine est encore plus radicale. Le ministre de l'Intérieur prévient ce matin qu'il ne laisserait entrer sur son territoire aucun convoi humanitaire russe. En Irak, Nouri al-Maliki n'entend pas abandonner son fauteuil de Premier ministre. Il a affirmé ce mercredi sa détermination à rester au pouvoir, et cela dans l'attente d'une décision de la Cour fédérale qu'il a saisie. Lundi, le président irakien avait désigné un rival, Haïdar al-Abadi, pour former un nouveau gouvernement dans le pays. Nomination qui a été saluée par la communauté internationale. Sur le plan humanitaire, plusieurs dizaines de milliers de civils sont toujours bloqués dans les montagnes, dans le nord du pays. Paris et Londres ont envoyé de l'aide, mais le pays qui est en première ligne face à l'avancée des combattants de l'État islamique, il s'agit des États-Unis, et ils continuent leur double mission, à savoir larguer des bombes visant les positions des djihadistes et livrer les vivres aux populations. Troisième jour de trêve dans la bande de Gaza et troisième jour de discussion. Elles ont repris ce matin au Caire. Il s'agit de négociations indirectes entre Israéliens et Palestiniens qui sont menées par l'entremise de l'Égypte. La trêve est censée se terminer ce soir. L'objectif, c'est de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu durable. Trêve qui est respectée. À noter cependant ce matin à Gaza une opération de démantèlement d'un missile israélien qui a mal tourné. 5 personnes ont été tuées, dont un journaliste étranger. Accident également au Yémen ce matin. Il a coûté la vie à 13 personnes, parmi elles 10 civils. Ils étaient venus assister au désamorçage d'une bombe quand celle-ci a explosé, une bombe que des insurgés d'Al-Qaïda avaient placée dans le sud du pays. Au moins 5 morts dans le massif du Mont-Blanc. Tous sont français, leurs corps ont été retrouvés ce matin. Une 6e personne est portée disparue. Ils avaient entrepris hier l'ascension de l'aiguille d'Argentière, qui est située à près de 4000 mètres d'altitude. C'est une icône d'Hollywood qui est décédée hier à l'âge de 89 ans. Lauren Bacall était une de ces actrices extrêmement charismatiques. Son regard bleu glacé, sa voix rauque, le couple qu'elle constituait pendant longtemps avec Humphrey Bogart. Tous deux se sont retrouvés à l'écran dans Le Grand Sommeil, puis dans Les Passagers de la Nuit notamment. Autre rôle important de Bacall à signaler, Comment épouser un millionnaire, sorti en 1953. En sport, l'actualité marquée par la 2e journée des championnats d'athlétisme, championnat d'Europe. La finale de l'épreuve reine à l'affiche aujourd'hui le 100 mètres. Ce sera à 19h50, temps universel, cette finale. Deux chances de médaille côté français dans cette course, Jimmy Vico et Christophe Lemaître. Merci d'écouter RFI, les 12h33 ici à Paris.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Le récit d'une femme tirée au sort pour être jurée populaire en cour d'assises. Sophie Kepes, vous êtes notre invitée, vous êtes écrivain, donc vous en avez fait un livre, hein, un écrivain juré d'assises. Mais évidemment, tout ce que vous racontez, seuls les noms évidemment ont été changés. Vous restez très évasive aussi sur l'époque. Vous nous le disiez juste avant le flash, vous avez d'emblée su que vous alliez en faire un livre. Alors évidemment, au-delà de la première sidération du tirage au sort, hein, que vous soyez tiré au sort plusieurs fois pour juger donc tour à tour pendant 2 semaines trois affaires de viol et d'agression sexuelle. Ce qui vous a sidéré aussi, ce que vous racontez beaucoup dans le livre, c'est le déballage des vies finalement, hein, dans une cour d'assises.
Oui, ça c'est quelque chose de très saisissant, parce que on pénètre dans des milieux qui sont parfois très loin de nous, et plus que cela, on pénètre presque par effraction dans des vies, dans des intimités, dans des psychismes. En plus, sont cités comme témoins des membres de la famille, des gens qui sont peu ou pas du tout impliqués, et c'est quelque chose vraiment d'affreux. Enfin, à certains moments, on est gêné, on peut aussi ressentir de l'empathie. C'était mon cas, par exemple, pour la première affaire. On peut ressentir de l'empathie autant pour l'accusé, le prévenu, que pour la victime ou la plaignante, si vous voulez.
La première affaire, c'était un homme qui était accusé de viol, hein, qui d'ailleurs sera acquitté par votre jury d'assises. Viol sur une fillette qui avait, à l'époque des faits, 8 ans, me
semble-t-il. 8-9 ans, ouais. Et ça a duré jusqu'à, je crois, c'est 16 ans, quelque chose comme ça. Que ce soit la jeune fille ou cet homme, qui était le frère du beau-père de la jeune fille, surtout lui d'ailleurs, il ne disposait pas de beaucoup de moyens d'expression orale, tout simplement. Et il m'arrivait plus d'une fois d'avoir envie de parler presque pour lui, pour elle, de le bousculer, la bousculer en disant « Mais explique-toi mieux, parce que là, tu es en train de perdre des points, tu n'es pas... »
Pourquoi ? Parce qu'on était dans un milieu de grande misère ?
Oui, là, c'était le cas. Alors, je m'empresse de préciser que, bon, des viols, des abus, des incestes, il y en a absolument dans tous les milieux. Faut pas du tout penser que, bon, voilà, c'est les bas-fonds, alors c'est normal, donc pas du tout. Mais c'est vrai que cette première affaire, peut-être, c'était le milieu le plus défavorisé, disons. On a vraiment l'impression que la vie des gens est déballée comme ça, bien sûr leur vie sexuelle, puisque hélas il s'agit de ça, mais pas seulement, hein, donc toutes leurs maladies, et même pour défendre ce premier accusé, à un moment donné, son propre avocat va dire, vous savez, il n'a que 60 de QI, de quotient intellectuel, donc il en fait un argument, une circonstance atténuante. Ça, c'était vraiment extrêmement violent, j'ai trouvé.
Alors il y a le déballage des vies, le déballage technique des viols, des agressions sexuelle aussi, qui est extrêmement dure. Oui. Il y a une extrême concentration des jurés pendant les audiences. Elles sont très longues. Hein.
Mm-hmm. Oh là, oui, c'est terrible. Il est arrivé plus d'une fois qu'on rentre, je ne sais pas, à 1h, 2h du matin, et il faut être de nouveau à pied d'œuvre à 8h du matin. Hein. C'est quelque chose de très intensif. Alors, on prend des notes et on essaye effectivement de suivre autant que possible. Mais c'est vrai qu'au moment du délibéré, quand on discute ensemble, on se rend compte qu'on n'a pas pris les mêmes notes. Ce qui est tout à fait souhaitable d'ailleurs pour arriver à un verdict qui représente vraiment la société. C'est vraiment une épreuve extrême et c'est comme être plongé dans un monde parallèle. Et au bout de quelques jours, vous ne pensez plus qu'à ça. C'est-à-dire, vous vivez complètement dans l'affaire. D'ailleurs, c'est très frappant que quand vous changez d'affaire, vous oubliez totalement la précédente. Et vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez des somnifères, des tranquillisants.
Vous êtes plusieurs dans le même cas d'ailleurs.
On est très nombreux dans ce cas. On est obsédé, on peut même pas donner un coup de fil ou envoyer un courriel parce que on a l'impression que la vraie vie c'est devenu la cour d'assises. En fait.
Votre récit a été préfacé par une ex-jurée d'assises, elle aussi, hein, ethnologue, qui a vécu donc la même chose que vous et qui écrit « Le juré populaire qui n'est pas usé par l'habitude ou le métier doit établir en soi une qualité de silence exceptionnelle. »
Oui, on balaye absolument tout ce qui n'est pas nécessaire à cette écoute très très particulière. Donc on a évoqué l'oralité des débats.
Il y a une mystique de la cour d'assises.
Je ne dirais peut-être pas ça. Mais tout est plus vrai à la cour d'assises qu'à l'extérieur. C'est ça qui est frappant.
Mais comment, dans ce cas-là, tenir à distance sa propre histoire, ce que vous appelez, vous, son arrière-plan personnel?
Alors, on ne le tient pas à distance et, en fait, il est tout le temps engagé, mais à l'arrière-plan, il faut l'espérer, parce que juger, c'est juger avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. C'est juger avec sa conscience, sa mémoire, ses opinions politiques, ce qui fait notre personnalité sociale, si vous voulez. Et puis, évidemment, avec notre inconscient, avec notre refoulé, nos tabous, nos blessures, et tout ça. Tout ça est engagé, mais évidemment pas au premier plan. Au premier plan, on se concentre et on prend des notes et on essaye de poser des questions judicieuses.
D'autant plus que là, vous jugez des viols, des abus sexuels, des agressions sexuelles, et que, bon, bah, forcément, vous avez été adolescente, là, et ça se passe sur des mineurs, hein, sur des enfants. Donc, forcément, il y a des choses qui se télescopent. Non, quelque part.
Oui, c'est vrai, et c'est vrai que j'avais.
Là, il y a des cas d'inceste. Il y a la troisième affaire qui est une affaire d'inceste multiple sur plusieurs générations pendant des années, sur une fratrie très nombreuse par un oncle. Enfin, c'est une affaire totalement sordide, ce que vous racontez.
Oui, là, j'avoue que on voit que les affaires sont classées, d'ailleurs, par ordre croissant d'horreur. Hein. Et ça, je crois que c'était vraiment bien pensé de la part de la présidente. Il faut peut-être dire quelques mots. Donc, on a évoqué la première affaire, la deuxième. Avait une tonalité extrêmement différente, peut-être parce que justement elle se situait dans un milieu, disons, plus classe moyenne, et où on pouvait peut-être plus facilement se reconnaître. Donc il s'agissait cette fois d'un agresseur ami de la famille avec un jeune garçon, disons une initiation homosexuelle, on peut parler comme ça.
Mmh. Alors, il est accusé d'agression et viol. Hein.
Oui. Oui.
C'est un garçon, un monsieur hyper normal.
Oui, alors comme j'ai dû changer les noms, je me suis fait un malin plaisir de le rebaptiser Parfait, parce qu'il a une personnalité qui semble absolument impeccable, hyper contrôlée, hyper maîtrisée, et qui a joué, il faut dire, beaucoup en sa défaveur, parce que ça l'a rendu très antipathique. Je voudrais quand même dire en passant que les trois prévenus ont nié systématiquement tout, y compris ce qu'ils avaient avoué pendant la première garde à vue, les premières dépositions. Alors, ça semble être une tendance très forte.
On a avoué à la police parce qu'on s'est fait tabasser, on a reçu des gifles, etc. Et évidemment, la la cour d'assises rétorque, mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte à ce moment-là?
Oui, parce que tout est consigné, le procès-verbal est consigné, à quel moment il a demandé à voir un médecin, etc. Donc bon, c'est vrai que ça paraît assez peu crédible. Et la troisième affaire, effectivement, rien ne nous y préparait, même pas les deux premières affaires. C'est quelque chose d'absolument inouï. C'est vraiment le massacre systématique de toute une fratrie, malheureusement nombreuse, enfin toutes, disons les trois quarts, des enfants garçons et filles ont été abusés par un oncle, donc en plus il s'agit d'un inceste techniquement.
Enfin, abusé, violé. Hein.
Alors violé et pendant des années et des années, enfin pendant deux décennies, ce qui n'a pas empêché...
Très jeune, hein, dès l'âge de 7-8 ans. Hein.
Oui, et ce n'a pas empêché donc l'oncle de chercher aussi, en dehors du cercle familial, des proies. C'est vraiment une affaire extraordinaire et elle est jugée telle par les magistrats professionnels. Ils disent que quand même, ils n'ont rarement vécu ça.
Alors la deuxième affaire, vous disiez donc dans un milieu plus classe moyenne, un homme qui a l'air comme ça hyper normal, qui est accusé d'agression et de viol sur mineur, hein, d'initiation à l'homosexualité, donc sur un mineur qui ensuite est devenu majeur, qui a porté plainte. Et là, vous vous demandez tout le temps finalement sur quoi juge-t-on quand on est juré. D'abord, vous n'avez pas accès à tout le dossier, et puis vous écrivez ce type m'agace en fait.
Oui, et je crois que j'étais pas la seule.
Ouais. C'est terrible.
Oui. Et d'ailleurs, il a été condamné à 10 ans et il a fait appel. Il a été recondamné, mais seulement à 8 ans, seulement, si j'ose dire. Ce qui était plus juste, entre guillemets. Je m'en rends compte après coup. Mmh. Parce que l'affaire a pas été très bien instruite. Enfin, il y avait des lacunes. Le manque de moyens judiciaires est très clairement en cause. Et évidemment, son attitude pendant le procès est quand même un facteur pas déterminant, mais très important. On peut pas lui trouver la moindre circonstance atténuante. On peut pas le trouver, en effet, sympathique et humain. Aucune empathie, contrairement à la première affaire. Et ça joue, et c'est ainsi. On peut pas
Sophie Kepes, vous l'avez dit au début de cette émission, vous ne pourrez pas nous raconter le temps des délibérations, qui est un temps aussi. Vous pourrez nous dire combien d'heures ça a duré sur chaque affaire. C'est extrêmement long, extrêmement épuisant. Néanmoins, vous allez nous raconter dans quelques instants comment on porte ensuite le poids de la délibération et du jugement quand on est juré d'assises. City lights are beckoning, their sirens softly call. All the fantasies and fetishes are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake. To you, but the tenderness I felt has been. Charlotte Gainsbourg, Mémoire, comme elle le chante chez 7 milliards de voisins sur RFI. On est avec vous, Sophie Kepes, pour la dernière partie de votre récit que vous avez consigné, bien raconté d'ailleurs dans un livre, Probe et Libre, hein, votre expérience d'écrivain juré d'assises, tiré au sort donc pour être juré dans une cour d'assises au Palais de Justice de Paris, très précisément pendant 2 semaines. 2 semaines de grande citoyenneté, hein, mais d'épreuves aussi humaines, puisque vous jugez des crimes. Hein, là, en l'occurrence, il s'agit de viol, d'inceste multiple, d'agression sexuelle. Vous et les autres jurés et les magistrats professionnels ont envoyé des gens en prison. Hein. Justement, alors, les délibérations, vous nous avez dit que vous ne pouvez pas en parler, parce que vous prêtez serment, hein, qu'on ne raconte rien des délibérations.
Du contenu et du vote, enfin, de combien à combien, voilà. Mais on peut parler de la manière dont ça se passe en général. Tout à fait. Bon, déjà, je crois que le plus long, c'était 5h30, mais en fait, ça peut durer. Le fait est que pour juger une affaire, ça doit être jugé sans aucune interruption jusqu'à délivrer le verdict. C'est quand même une contrainte absolument énorme. Donc, en fait, pendant
Donc, vous pouvez pas sortir de la pièce, sauf,
Et même toute l'affaire doit être jugée d'une seule traite et tout, on dort, mais c'est tout. Et le délibéré, là, c'est carrément, on est gardé, enfin, la pièce est gardée par des gendarmes, on peut pas téléphoner, on peut absolument rien faire que de délibérer.
Vous dites d'ailleurs, hein, vous l'écrivez dans votre livre, vous dites, je suis à bout de nerfs, je me sens proche de l'effondrement. Dans ces conditions, de quoi sera fait notre délibéré? Parce que vous n'arrivez pas à rassembler vos idées avec la fatigue. Je compte plus que jamais sur mes collègues jurés pour suppléer à mes insuffisances. Mais les autres sont peut-être comme vous aussi.
Ouais, on est tous dans un état épouvantable. Alors, pour dire comment moi je le vivais, j'ai aussi pendant les affaires, j'ai tout le temps le sentiment de mon insuffisance. J'ai le sentiment que j'ai pas posé les bonnes questions à travers la présidente. Enfin, il faut demander l'autorisation à la présidente, elle l'accorde toujours. J'ai l'impression que j'ai pas été assez rapide, que j'ai pas rapproché de fait d'une manière assez pointue et intelligente. J'ai l'impression que j'ai pas pris les notes qu'il fallait. Enfin, vraiment, je me sens assez démunie quand commence le délibéré, de manière générale. Il faut savoir qu'on doit argumenter, c'est-à-dire il n'y a jamais de déclaration émotionnelle du type « Oh, on voit tout de suite que cette fille est mythomane ». Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout simplement pas entendre. Il faut, en utilisant ces notes, argumenter ce qu'on appelle l'intime conviction. Parfois, j'étais très désarçonnée simplement de découvrir que mon voisin, ma voisine avait compris tout à fait l'inverse. Déjà, cette intime conviction qui se construit au fur et à mesure de l'audience, elle est très changeante. Il y avait des points que je croyais parfaitement clairs. Et puis, coup de théâtre, il y en a beaucoup dans la dernière affaire. Par exemple, dans la dernière affaire, moi, j'en suis arrivée à penser que le père aussi avait été incestueux, même si...
Mais c'est pas lui qui était sur le banc des accusés. Non, en l'occurrence, c'était l'oncle. Hein.
Voilà.
C'était l'oncle sur lequel les témoignages étaient tellement nombreux, quand même, d'abus, de viols, d'agressions, que...
Là, il n'y avait aucun doute. Hein. Je pense que personne n'avait le moindre doute.
Sur la première affaire, un homme qui est accusé de viol sur une fillette de 8 ans à l'époque des faits, cet homme a été acquitté.
Oui.
Vous l'avez acquitté.
Voilà, le jury l'a acquitté. Là, je peux absolument pas en dire davantage. Non. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a fait 3 ans de prison.
Alors en préventive.
En préventive, normalement, c'est 2 ans maximum. Et bien, puisqu'il est acquitté, il a fait ses 3 ans pour rien.
Mais vous l'acquittez parce qu'il y a des expertises qui se contredisent. Mais vous dites que c'est très, très compliqué, finalement, parce que vous vous sentez tout le temps démunis de preuves matérielles.
Oui, alors là, je l'ai bien compris.
On n'est pas là dans les séries américaines avec les ADN,
D'abord parce que les faits peuvent être dénoncés jusqu'à 10 ans après la majorité civile, c'est-à-dire 28 ans.
Là, les 3 affaires, c'était des affaires qui étaient dénoncées très longtemps après.
Oui,
hein.
Donc si vous avez été victime de la même personne, vous pouvez être un témoin à charge, tant que vous êtes là. Si vous le désirez. Mais donc il s'agit de faits très anciens et comme ils sont très traumatisants, souvent ils sont pas relatés d'une manière très très vite.
Mais donc vous n'étiez pas aidé par la technologie policière là en l'occurrence.
Non. Et comme en matière de justice, c'est toujours la preuve ou l'aveu qui compte. Mais ça, j'en ai reparlé ensuite avec la présidente et elle me l'a confirmé dans ces affaires donc sexuelles, de crimes sexuels, c'est la crédibilité et la parole de l'un de l'autre qui fait la décision. Donc c'est vraiment une affaire d'intime conviction. Parce que en matière de preuves, bien parfois elles sont contestées, contestables. Et en effet, cette jeune fille de la première affaire a eu droit, la malheureuse, à je ne sais combien d'expertises et de contre-expertises. Je note au passage que la virginité semble être encore, disons... considérée comme une preuve d'une manière assez étrange aujourd'hui, alors que pour la deuxième affaire, où il y avait bien eu viol, mais en l'occurrence, disons le mot sodomie, il n'y a eu aucune expertise demandée. Finalement, l'agresseur supposé a été condamné sans preuve. Donc, les aveux, ils sont rétractés, comme je disais tout à l'heure, presque systématiquement. Et là, c'est parole contre parole. Et depuis l'affaire d'Outreau, qui date des années 2004-2005, comme vous le savez, la crédibilité de la parole des enfants a été sérieusement battue en brèche.
Vous écrivez au moment du verdict, hein, j'ai les jambes en coton, tout à coup, c'est un instant terrible que celui où s'exerce la coercition de la société d'une grande violence en vérité. Et ça, vous devez le porter.
Oui, c'est-à-dire que même si on a voulu une condamnation ou pensé que elle était inévitable, eh bien, on n'est quand même pas préparé à ce que les gendarmes passent les menottes aux condamnés et qu'ils se retrouvent sans transition à passer sa première nuit en prison, en tout cas sa première nuit de condamné en prison. Ça, c'est quelque chose de terrible, c'est vrai.
Comment vous vivez, plusieurs années après maintenant, les débats sur la réforme pénale, par exemple, en ce moment, plus largement aussi les débats de la société sur la sécurité, les peines de prison? Est-ce que ça a transformé votre façon de voir les choses?
Vous savez que la prison française a de sérieux défauts et qu'elle est, la France est très très mal classée en Europe pour son système pénitentiaire, la surpopulation, les suicides en prison. Bon, voilà, il me semble que la prison ne joue pas tout à fait son rôle de, disons, de sanction, c'est vrai, protéger la société, c'est vrai. Bon, moi, je crois surtout pour les crimes de la nature qui me concernaient, surtout retrancher quelqu'un de la société pour qu'il puisse enfin entériner les tabous, les limites, les barrières. Enfin, c'est plutôt ça, à mon avis, qui comptait. Mais bon, moi, je suis soulagée que les jurys populaires appliqués au délit en correctionnel, il y a eu un essai fait par le précédent gouvernement dans deux départements, je suis contente que finalement on ait abandonné, parce que je crois que pour les délits, on n'est pas vraiment, si vous voulez, compétent. Il s'agit de quelque chose de très technique. Alors que s'il s'agit de crimes, ça nous concerne tous, parce que on peut tous avoir été victimes, bourreaux, ou on aurait pu l'être. C'est de l'humain qu'il s'agit.
Ces deux semaines que vous avez passées à la cour d'assises comme juré, ce sont deux semaines qui restent gravées en vous à jamais?
Oui, ça reste gravé à jamais, et c'est le cas d'absolument tous mes ex-collègues et tous les jurés que j'ai rencontrés depuis le 10. On vit avec et on s'en souvient toute sa vie.
Sophie Kepes, vous publiez Probe et Libre, un écrivain juré d'assises, et c'est publié aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup d'être passée dans le studio de RFI.
Merci à vous.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Après cette plongée en apnée dans le monde judiciaire, reportage maintenant au cœur de la ville. Impossible de prendre le métro à Paris sans entendre une mélodie au bout d'un couloir. À Paris, les musiciens du métro font partie du paysage et même du patrimoine. Ils amusent les touristes, ils fatiguent aussi un peu parfois les travailleurs. Deux fois par an, la RATP organise des castings pour sélectionner une centaine de musiciens qui repartiront avec le fameux Graal, l'accréditation. C'est un papier qui les autorise à jouer dans les couloirs du métro sans se faire évacuer par la sécurité. Les castings rencontrent un succès fou et la concurrence d'ailleurs est féroce. Alice Milo, notre reporter, a glissé son micro lors des derniers castings qui sont pilotés par Antoine Nazo de la RATP.
Alors, la prochaine candidate. On va la laisser s'installer. Installer la guitare. Un seul micro, c'est bon ?
On va commencer par un compo en français. Ça s'appelle encore un effort. Moi je suis Jas et je joue dans le métro depuis un an. J'ai mis un peu de temps à me décider à aller jouer dans le métro parce qu'au début je n'avais pas trop le courage de le faire.
il faut quand même un sacré culot pour faire ce rapt de l'espace public, parce que on déballe ses affaires sur un espace qui n'est pas prévu pour qu'il y ait de la musique. C'est un espace où les gens sont en transit, et du coup réussir à les attraper dans cette faille temporelle là, c'est vraiment quelque chose de super valorisant en tant qu'artiste, et c'est un moment d'échange super précieux. Les gens vous adressent un sourire vraiment sincère en vous disant merci, ils vous les remercient de la façon dont ils vous nourrissent aussi avec l'attention qu'ils vous portent. Donc c'est vraiment un moment d'échange super intense.
Au-delà du plaisir, à quoi ça sert de jouer dans le métro ?
Jouer dans le métro, ça sert à faire des tas de rencontres. Si vous voulez, à titre d'exemple, voilà, je suis en première partie à La Cigale.
Qui est une grosse salle de concert de Paris. Hein.
Voilà, La Cigale, c'est une dame qui m'a vu jouer dans le métro. Plus tard, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire la première partie de Richard Bonnat à La Cigale ? J'ai dit oui. Ça m'a vraiment énormément apporté professionnellement, personnellement, artistiquement. Même si je réussis à faire des choses de plus en plus intéressantes, je reste dans le métro parce que, si vous voulez, l'humanité est la même à l'Olympia que dans le métro. Et l'humanité
qui sort. C'est le même public.
Exactement. Et quand ce public sort de l'Olympia, il prend le métro pour rentrer chez lui. Donc, je vois pas, en fait, pourquoi ça devrait être moins valorisant, plus humiliant d'être dans le métro plutôt qu'au Zénith. Parce que ce sont les mêmes gens. C'est un défi beaucoup plus grand pour un musicien de chercher à attraper l'attention de gens qui ne sont pas disposés à écouter et qui par ailleurs ne sont pas votre public, plutôt que d'essayer d'attraper l'attention des gens qui ont réservé une date pour venir vous voir et payer un ticket. Donc c'est aussi la personne dont vous arrivez à capter l'attention, vous dites, elle, je l'ai attrapée, je ne peux pas la lâcher.
Les castings de la RATP, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Et donc, on a de plus en plus de monde, de candidats qui viennent postuler aux musiciens du métro. En gros, c'est 2000 castings et 300 candidats sont retenus. Enfin, le public a eu une mauvaise image des musiciens, surtout une image de mendiants qui jouaient pas forcément bien.
Qui cassaient les oreilles.
On n'était pas tranquille. Et cette image a changé grâce peut-être justement à ces castings, grâce aussi à ces musiciens qui jouent le jeu, parce qu'il faut aussi que ces musiciens jouent le jeu et qui font plaisir, qui donnent du plaisir aux gens. Parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément le côté « je vais dans le métro pour gagner de l'argent », non, c'est donner du plaisir. Ben, c'est vrai que chanter dans le métro, c'est pas donné à tout le monde. Là, passer l'audition, c'est une chose. Après, faire une performance dans le métro, c'en est une autre. Parce que les gens, encore une fois, sont pressés. Et des fois, ils passent devant vous, voilà, sans intérêt. Hop, vous chantez pour rien. Enfin, vous pouvez chanter dans le vide. Ben, il faut résister à tout ça. Et puis, tester. Si ça marche pas à un endroit, tester à un autre endroit. En tout cas, voilà, il faut se bonifier dans le métro. C'est la plus grande scène parisienne, quelque sorte. Hein, et c'est là qu'il y a le plus de public. Hein, comme je disais, plus de 5 millions de voyageurs. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont démarré leur carrière dans le métro. On va dire le plus fédérateur parmi les musiciens, c'est Kezia Jones, voilà, qui s'est fait découvrir dans à la station Châtelet. Mais sinon, on a des artistes comme Danny Briand, Lame, Liam Baldé, Anis, ce sont des artistes qui se sont fait connaître dans le métro.
Vous êtes qui ?
Alors moi je suis Gianni, un des deux chanteurs du groupe Le Quartier Libre. Pour nous, le métro c'est aussi la rue, on a toujours joué dans le métro mais de manière un peu illégale. Bah maintenant ça serait bien qu'on puisse jouer plus d'un quart d'heure sans qu'on se fasse dégager. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on aimerait avoir une accrédite quoi.
Une accréditation.
Tout à fait.
L'objectif c'est aussi de boucler les fins de mois, jouer dans le métro.
Ah oui, bien sûr, oui. Moi j'ai la chance que ça plaise énormément, du coup c'est vrai qu'en 1 heure, 2 heures j'arrive à survivre en fait. Et de boucler mes fins de mois également. C'est formateur, en fait, c'est juste apprendre à gérer un public qui n'a pas forcément demandé de tomber sur nous et c'est la petite école, quoi. Oui, j'aime ça.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission avec le reportage d'Alice Milot, le pagne sous toutes ses coutures, à Lomé, au Togo. Plus d'un an après l'incendie du marché central, les autorités tentent de relancer le commerce du pagne africain, qui n'est d'ailleurs pas fabriqué en Afrique. Mais derrière ce banal morceau d'étoffe, il y a des ressorts culturels, sociaux, économiques et même politiques à redécouvrir demain.